Europe 1.
Jouez à Cyberpunk 2077. Conduisez des bolides, combattez des corporations et améliorez votre corps.
On va s'amuser un peu.
Cyberpunk 2077. Achetez-le dès aujourd'hui sur Xbox, PlayStation, PC et Stadia. PEGI 18.
Ah 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, moi c'est Mathieu Noël et je m'en vais réveiller mon maître qui faisait un petit somme histoire d'emmagasiner un maximum d'énergie avant l'émission. À son âge, une micro-sieste s'impose après un déjeuner bien arrosé. Mais bon, comme il pionce depuis 14h, je vais le réveiller au son qu'il préfère.
Il est l'or, mon seigneur. L'heure de se réveiller.
Debout Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Non, mais vous me prenez vraiment pour une prêche. Enfin, oui, c'est notre thème commun cet après-midi dans Historiquement Vôtre. Le point commun entre tous nos personnages, l'or. De Toutankhamon aux 49ers, les célèbres chercheurs d'or qui partirent à l'assaut de la Californie en 1849. Et vous Mathieu, quel personnage plus contemporain lié à l'or vous avez choisi ?
Julien Doré.
J'adore Julien, mais c'est une blague. Là.
Même pas.
Ah, je m'en doutais, vous osez tout. Hein. C'est même à ça qu'on vous reconnaît.
Certes, et à ma capacité à vous livrer le sommaire aussi. Avec nous en studio, comme chaque après-midi, nos chroniqueurs en or. Quoique pour certains, il faudra vérifier si c'est du massif ou du plaqué. Clémentine Portier-Kaltenbach, bonjour. Vous, c'est de l'or massif. Chaque jour, vous nous entraînez dans l'intimité des grands
ce
monde.
Vous allez me faire rougir. Alors, vous voyez, il y a une chose qui est très personnelle, très intime, et que l'on ne confie qu'à ses vrais amis, si l'on a des dettes. Messieurs, avez-vous des dettes ?
Oui, d'ailleurs, vous en parlez à Stéphane.
Dettes de jeu, dettes fiscales pour cause de phobie administrative ?
Dettes auprès des banques.
Dettes d'honneur ? Ah oui. Alors écoutez, sachez que jusqu'en 1867, votre créancier était en droit de demander la contrainte par corps si vous étiez endetté et on vous aurait emmené sur le champ en prison pour dette à Clichy. Ou à Sainte-Pélagie.
Mais c'est complètement con, parce que si t'es en prison, tu peux pas gagner de l'argent.
C'est bien le problème.
Mais ça doit donner envie de rembourser quand même. Le risque de prison.
Exactement. C'est pour ça que la contrainte par corps ne devait pas durer trop longtemps. Parce qu'il fallait bien pouvoir rembourser.
Je pensais qu'on payait en nature.
Ah bah, ça, c'est dans votre fantasme. Oui. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas.
Parce que parfois, on préférerait.
On allait juste en prison.
Ça me fait penser que je dois une capsule de café à Mathieu, tiens.
Ah ben bah ça, tu m'en dois plus d'une. Olivier Pouls, puisque vous prenez la parole, vous êtes notre spécialiste bonne chair, on peut le dire. Vous êtes le bon vivant de l'équipe. Chaque jour, l'histoire d'une recette.
Et la recette qui va avec, je vais vous parler d'une sauce incontournable pour les amateurs de viande rouge, la délicieuse sauce béarnaise.
Ça vient du Béarn.
Non, pas du tout.
Comment ça,
Pas du tout. Ah ben bah pour une fois, vous êtes totalement à côté de la.
Pourquoi on l'aurait appelé la Bernesse
si ça n'est pas du Bernes. Vous le saurez tout à l'heure, si vous écoutez, si vous écoutez bien, vous le saurez tout à l'heure.
Et avec nous aussi, David Castel-Lopez, qui s'intéresse, alors, on parlait de dette, vous, c'est au billet de banque, c'est ça ?
Oui, tout à fait, c'est-à-dire c'est à la fois un peu la même chose que l'or et un peu le contraire aussi, c'est-à-dire c'est du papier auquel on donne une valeur, je trouve ça complètement fascinant.
Enfin, amateur de spectacles sanglants, n'oubliez pas notre quiz vers 5h-10,
oui,
Stéphane Bern sur le grill de mes questions plus ou moins historiques, ça s'appelle Bern to be alive et en ressortant de là, et comme une vieille laitue. Stéphane se dit souvent
bidon.
Mais non, vous n'êtes pas bidon. Reprenez-vous Stéphane, croyez en votre bonne étoile et livrez-nous.
Il m'a quand même traité de vieille laitue.
J'ai un peu hésité et puis je me suis dit qu'on pouvait tous permettre. Mais vous l'avez relevé quand même.
Évidemment,
à l'époque, vous m'auriez provoqué en duel, ça se serait mal fini tout ça. Qu'est-ce que vous auriez choisi comme arme?
Le pistolet.
Non, quelque chose de plus pacifique. Hein.
Les
duels actuellement se font à l'imparfait du subjonctif. Et croyez-moi, c'est compliqué. Hein.
Pardon ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Duel à l'imparfait du subjonctif jusqu'au premier sang.
Une erreur ?
Mais vous... Oui, le premier qui fait une erreur.
On s'amuse avec eux. Les soirées à l'imparfait du subjonctif.
Le pistolet, c'est plus radical.
C'est d'une violence.
Encore est-il fallu que je le suce.
Voilà, exactement.
Eh bien, très bien, je vous laisse sur ce mot, Stéphane. Essayez de vous ressaisir avant de nous livrer votre récit un peu plus sérieux dans la catégorie La soif de l'or. Je demande Toutankhamon.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Un lit en or, une baignoire en or, un carrelage en or, on pourrait se croire chez Stéphane Bern. Non, on est chez Toutankhamon, un type aussi riche, mais à la carrière beaucoup plus courte, dont Stéphane nous raconte l'histoire.
Soyons sérieux. Notre récit commence aujourd'hui au pays des pharaons, par un matin de novembre 1922.
Sur la rive occidentale du Nil, et malgré la chaleur, les ouvriers s'affairent dans la vallée des rois.
Ça, c'est une musique historique égyptienne ou c'est la musique d'un boulard des années 70? Ça, c'est vraiment très très sexy comme
ouais,
musique.
Moi, j'aime beaucoup.
Suave.
Oui.
On s'y croit. Oui.
Dans la célèbre nécropole antique qui se trouve tout près de Louxor, une nouvelle campagne de fouilles archéologiques a commencé il y a 3 jours. L'objectif est de localiser le tombeau d'un jeune pharaon dont on n'a pas retrouvé la trace, le tombeau de Toutankhamon. Cet enfant roi a régné sur l'Égypte aux alentours de 1320 avant notre ère, c'est-à-dire en plein âge d'or de la civilisation égyptienne, la période du Nouvel Empire. Mais au début du XXe siècle, il n'est pas très connu. Les férus d'Égypte ancienne citent plus volontiers les accomplissements de Khéops ou Ramsès II. Et pour cause, le roi n'a pas laissé beaucoup de traces. Toutankhamon est vraisemblablement le fils du pharaon Akhenaton, qui aurait épousé sa sœur ou cousine germaine, la belle Néfertiti. Le jeune garçon accède au trône avant ses 10 ans. C'est à ce moment-là que sa sœur aînée devient son épouse. Une fois la puberté venue, le couple royal n'engendre aucune descendance connue. On sait aussi que le jeune pharaon souffre d'infirmité et qu'il est peut-être boiteux. Toutankhamon disparaît alors qu'il n'a pas 20 ans. La peste ou une fracture ouverte non soignée aurait pu l'emporter. En 1922, les recherches pour localiser le sarcophage de Toutankhamon sont menées par un archéologue britannique dont la réputation n'est plus à faire, Howard Carter. Passionné d'Égypte et pour mener à bien ses recherches, il peut compter sur le soutien d'un mécène anglais tout aussi passionné, le très fortuné Lord Carnarvon. Ce matin du 4 novembre, vers 10 heures, Howard Carter, qui arrive sur le chantier, constate tout de suite qu'il y règne un silence inhabituel. C'est qu'à l'aube, les ouvriers ont fait une découverte prometteuse. En creusant dans le sable, ils ont dégagé quelque chose qui ressemble à une marche. Alors, tout le monde s'active et 2 jours plus tard, l'archéologue et ses hommes sont parvenus à mettre à jour 14 des 16 marches d'un escalier qui mène à une première porte. Carter jubile. Il devine qu'il s'agit là d'un tombeau inviolé depuis l'Antiquité. Ce sont des sceaux officiels posés sur la porte qui l'attestent. Se pourrait-il qu'il ait enfin trouvé le lieu de repos éternel du pharaon Toutankhamon? Quelques semaines après la découverte, Howard Carter s'apprête à pénétrer dans le tombeau. Il est accompagné de son bienfaiteur, Lord Carnarvon, venu avec sa fille Lady Evelyn, Arthur Callender, un ingénieur bien connu de Carter, s'ajoute à ce trio. Ces 4-là ne le savent pas encore, mais ils vont inscrire la date du 26 novembre 1922 dans l'histoire. Après avoir descendu les marches, ouvert une première porte, déblayé un long corridor, Carter et ses compagnons se trouvent face à une nouvelle cloison.
Est-ce qu'on ne remettrait pas la petite musique érotique égyptienne là? Ah voilà, ah, là, là voilà.
L'archéologue enlève petit à petit les pierres qui obstruent le passage. Et une fois l'ouverture assez grande, il y glisse un bras.
Qu'est-ce qu'il y glisse? Un bras.
Oh. Pour éclairer la lumière d'une bougie, ce qui se cache ici depuis des millénaires. Au premier coup d'œil, Howard Carter reste sans voix, car partout il voit de l'or. C'est un bric-à-brac d'or, de l'or qui scintille de tous les côtés, de l'or qui reflète intensément la lumière de sa chandelle. Les accompagnateurs s'impatientent, ils veulent savoir ce que Carter aperçoit. « Des choses merveilleuses, leur répond-il. Car il s'agit bien là d'un trésor faramineux. Point de lingots, mais des milliers d'objets qui sont entreposés dans les 4 pièces qui forment le tombeau. À 4 mètres sous terre, Carter vient d'ouvrir un garde-meuble doré qui est abandonné depuis plus de 3000 ans. Cette découverte est celle de sa vie. Son nom sera pour toujours associé à celui de Toutankhamon. Car il n'y a plus aucun doute sur l'identité de la momie qui occupe les lieux. De nombreux objets portent le cartouche du pharaon, c'est-à-dire son nom en hiéroglyphe. Ce jour-là, l'inventaire commence, et la tâche n'est pas facile. Il faudra 10 ans pour répertorier les 5398 pépites qui composent l'immense trousseau funéraire du pharaon. Parmi ces merveilles découvertes dans le tombeau, dans l'antichambre, 3 lits funéraires dorés, un magnifique trône incrusté d'or et de pierres précieuses, des chars de cérémonie, 2 immenses statues de Toutankhamon. Dans l'annexe, plus de 2000 objets, dont beaucoup de jarres de vin millésimés.
Quel gâchis.
Dans la pièce du trésor, une statue d'Anubis, le dieu protecteur des morts, des statuettes en or, de fabuleux bijoux, des coffrets dorés contenant les viscères du roi, très important, des sceptres royaux, des maquettes de bateaux, j'en passe. Partout, du bois sculpté, de l'ivoire, de l'obsidienne et bien sûr, l'éclat de l'or. Tout ça pour accompagner le pharaon dans le royaume des morts. Le pharaon, justement, se trouve dans la chambre funéraire. Et c'est un véritable coffre-fort doré qui abrite sa momie. Une première chapelle en referme une seconde, puis une troisième, même une quatrième. Et à l'intérieur des chapelles, on trouve enfin le sarcophage. Mais le jeu des poupées russes continue, car le sarcophage renferme trois cercueils emboîtés les uns dans les autres. Le dernier est à lui seul un trésor d'orfèvrerie d'une valeur inestimable, est entièrement fait d'or massif et ne pèse pas moins de 110 kilos. Et bientôt, Carter va mettre la main sur l'ultime trésor.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Les personnages en or de l'histoire, c'est le point commun de nos trois personnalités historiques du jour. Stéphane, vous nous racontez la découverte du tombeau de Toutankhamon, inventeur, si on veut, du bling-bling post-mortem. Il était entouré d'or.
Et de l'or encore. Dans le dernier cercueil de Toutankhamon, l'archéologue Howard Carter trouve la pièce la plus connue du trésor du pharaon, son masque funéraire. 11 kilos d'or massif ont été utilisés pour réaliser ce portrait du roi qui recouvre sa tête et le haut de son buste et doit le protéger des périls de l'au-delà. On relèvera aussi que les prêtres égyptiens ont soigneusement chaussé le jeune défunt qui porte une paire de sandales 100% pur or. On l'a compris, dans l'hypogée de Toutankhamon, l'or abonde. Le métal si précieux est partout. Car dans les croyances égyptiennes, si les os des dieux sont d'argent, leur chair est d'or. Le jaune brillant si proche de l'éclat du soleil est tout simplement la couleur de leur peau. Or, le pharaon est l'émanation du pouvoir divin sur terre. Quoi de plus logique alors que de recouvrir le souverain d'or ? Il faut ajouter que, pour les anciens égyptiens, il aurait été dommage de se priver du métal jaune, car l'une des richesses du nouvel empire, ce sont les multiples gisements d'or qui se trouvent sur les terres égyptiennes. Nul besoin donc d'aller bien loin pour extraire des pépites et en tirer profit. Aujourd'hui, les ors de Toutankhamon et sa supposée malédiction ont projeté cet éphémère pharaon au premier rang des stars de l'Égypte ancienne. Pourtant, avant la grande découverte de Howard Carter, le jeune homme avait plutôt été relégué aux oubliettes de l'histoire. Mais comment un souverain, disparu avant ses 20 ans, a-t-il pu accumuler tant de trésors de son vivant ? Eh bien justement, il n'en aurait pas eu le temps. Plusieurs objets du trésor auraient en fait eu un premier propriétaire. Des égyptologues de renom ont établi qu'une de ses sœurs, la reine pharaon Méritaton, a régné avant lui. Sur plusieurs objets trouvés dans le tombeau, d'anciens signes auraient été effacés par le cartouche de Toutankhamon. Ces petites traces correspondent en fait aux cartouches de la reine pharaon qui n'aurait jamais profité de son somptueux mobilier. Les ors de Toutankhamon qui ont forgé sa célébrité n'étaient finalement pas tout à fait à lui.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour percer le mystère de Toutankhamon, nous sommes avec le romancier aux 50 millions de livres vendus, la star de l'égyptologie, Christian Jacques, bonjour.
Bonjour à vous.
Bonjour Christian Jacques, vous êtes grand spécialiste d'Égypte des pharaons. Parmi vos nombreux romans, on peut citer deux d'entre eux consacrés à Toutankhamon, sujet qui vous passionne et nous passionne. L'affaire Toutankhamon, réédité chez Pocket, et Toutankhamon, l'ultime secret, chez Ixo Éditions. J'ai terminé mon récit en évoquant un doute sur les ors qu'on a retrouvés dans la chambre funéraire de Toutankhamon. Ils ont forgé sa célébrité, mais finalement, tout ne serait pas à lui. Alors, est-ce que c'est sa sœur ? Quelle est votre opinion là-dessus, Christian Jacques ?
Alors écoutez, en fait, c'est une information qui a été déjà obtenue il y a assez longtemps, puisqu'en effet, en étudiant d'assez près l'ensemble des objets, on s'aperçoit que quelques-uns ont été sans doute fabriqués pour, comme vous le disiez très bien, une reine qui aurait... Je ne sais pas si elle a régné, parce que la fin de l'époque d'Akhenaton et de Néfertiti est totalement obscure. En fait, on ne sait pas grand-chose. Et là, on essaie de gratter. On essaie d'avoir la moindre information. Donc, il y a quelques objets dans la tombe qui ont été sans doute... qui n'était pas destiné à Toutankhamon directement, mais je peux quand même vous rassurer, je pense que plus de 90%, c'est bien pour lui, et les orfèvres égyptiens, comme il a quand même eu un règne pas si court que ça, ont largement eu le temps de faire ces immenses chefs-d'œuvre.
Mais la tradition, Christian Jacques, c'est dès qu'un souverain, un nouveau pharaon était arrivé sur le trône, on commençait à préparer son mobilier funéraire en or. C'est-à-dire qu'on avait le temps de son règne pour fabriquer.
Mais vous avez tout à fait raison, parce que du point de vue des Égyptiens, en fait, nous, ce que nous appelons une tombe, eux, ils appellent ça une demeure d'éternité. Donc c'est une vision complètement différente de la nôtre. C'est pas funéraire, les tombes égyptiennes. Et quand vous êtes dans ces tombes, d'ailleurs, il y a évidemment autrefois, il y avait tous ces objets qui ont été malheureusement volés ou détruits, mais vous avez encore les peintures, et c'est extraordinairement vivant. Moi, j'ai passé des heures de ma vie dans ces lieux, et j'ai jamais senti la mort, si vous voulez. Donc, c'est vrai que dès que le pharaon règne, il doit préparer cette demeure d'éternité qui est un sas finalement entre la vie sur Terre et puis ce qu'ils considéraient eux comme la vie dans le cosmos. Donc vous pensez bien que dès que Toutankhamon a commencé à régner, bien sûr on a tout de suite préparé ce mobilier et cette tombe.
C'est une sorte de reliquaire finalement, c'est assez fascinant cet appartement de l'au-delà, tout était en or.
Bah écoutez, vous employez pour moi le mot capital, qui est le mot de reliquaire, parce que la tombe de Toutankhamon n'est pas du tout conforme au modèle de tous les pharaons de la 18e dynastie de cette grande époque qui l'ont précédé. C'est pas du tout comme ça. Toutes les autres, on les a trouvées, mais elles ne se présentent absolument pas de la manière dont cette cache, en fait, c'est une sorte de cache. C'est une petite tombe, hein, tous ceux qui l'ont visité, qui ont pu, maintenant c'est très difficile, mais on connaît certaines immenses tombes, comme celle de Séti Ier, qui fait 100 mètres de long, vous imaginez. Bon, les tombes de ses prédécesseurs à Toutankhamon sont plus vastes que ça, et là, c'est tout petit, c'est vraiment une cache où on a entassé, mais un maximum des milliers d'objets, à tel point d'ailleurs qu'ils ne sont pas tous encore publiés et étudiés, c'est vous dire depuis la date de la découverte. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a un homme dont on parle très peu, qui s'appelle le général Horemheb, mais qui était en fait un scribe royal extrêmement cultivé, qui a été le mentor de Toutankhamon, qui l'a aidé à faire son retour d'ailleurs à Thèbes. Il quitte la cité d'Akhenaton qui était en Moyenne-Égypte et qui était devenue une cité quasi maudite. Et il a fait un retour à la tradition.
Il faut peut-être expliquer, Christian-Jacques, pour ceux qui n'ont pas suivi, que vous dites retour à l'ordre ancien, c'est parce que Akhenaton, le père de Toutankhamon, il avait tout mis sur le dieu Aton, il avait fait graver le nom d'Aton partout, et ensuite il y a eu un retour vers le dieu Amon, c'est ça ?
Exactement, il s'est passé une véritable révolution à la fois politique, culturelle, religieuse. Je pense qu'il s'est passé un phénomène très simple, c'est que le général Horemheb, il s'est dit, bon, là on vient de vivre quelque chose de très grave. L'Égypte a failli basculer, a failli sombrer, y compris d'ailleurs par rapport à la politique extérieure. Donc il a rassemblé, et heureusement pour nous égyptologues, il a rassemblé tout ce qu'il pouvait y avoir dans une vraie tombe, j'allais dire, d'un roi égyptien. Et c'est la seule. C'est la seule qu'on ait comme ça. Et ensuite, les premiers Ramessides ont caché cette tombe, l'ont occultée, parce qu'elle se trouve en fait au centre de la vallée des rois. Et alors l'ironie de l'histoire, si on peut dire, enfin elle s'est bien terminée, mais c'est que Carter a failli creuser là au tout début de cette fouille. Et puis finalement il s'est dit, oh ben non, il y a quand même des restes de cabanes en pierre datant de l'époque Ramesside, ce sont des vestiges archéologiques, je vais pas casser ça pour aller voir en dessous. Donc il a cherché partout autour, il a rien trouvé. Et pour sa dernière campagne de fouille, Carnarvon, son grand ami, n'a plus d'argent, il lui dit, écoute, je peux plus te financer. Bon. Et il dit, une dernière chance, voilà, c'est ma dernière campagne. Et là, il se dit, bon, tant pis, je reviens d'où je suis parti, j'enlève tous ces vieux vestiges qui n'avaient qu'un intérêt, disons, secondaire, et là, il trouve la tombe.
Il est temps, Christian-Jacques, je crois, de revenir aussi sur cette malédiction de Toutankhamon qu'on a tous, dont on a lu pas mal de choses à ce sujet-là. En gros, ceux qui ont exhumé la momie de Toutankhamon comme Lord Carnarvon, le commanditaire des fouilles, seraient morts ensuite de causes surnaturelles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Alors, cette histoire, c'est formidable. On est sur un média, donc c'est un des premiers grands coups médiatiques de l'égyptologie. Alors, on connaît aujourd'hui la vérité. Quand Carter a découvert la tombe, il a toujours été en très mauvais termes avec les autorités égyptiennes. Parce qu'à l'époque, si vous voulez, il n'y avait pas les fouilles comme aujourd'hui. Vous étiez un mécène. Carnarvon est allé en Égypte parce qu'il était malade à la suite d'un accident de voiture. Il a donc été prendre le soleil de Louxor. Comme il s'ennuyait, il a fait un peu d'archéologie. Il a engagé Carter. Et Carter n'était pas un égyptologue officiel, il faut le savoir. C'était un type qui a tout appris sur le terrain. Alors après, il a été nommé inspecteur des antiquités, mais il s'est brouillé mortellement avec un groupe de Français. Il trouvait qu'il visitait très très mal un tombeau, qu'il mettait les mains partout, donc il a été démis de ses fonctions. Et c'est Carnarvon qui l'a sauvé d'une certaine manière en lui donnant ce travail. Et alors, Carter, ben, quand il a, c'était son tombeau, faut se mettre quand même à sa place, c'est lui qui il a vécu que pour ça. Bon, il l'a trouvé, il a invité le monde entier, les grands de ce monde sont allés visiter le tombeau, etc. Et puis il y avait dans l'ombre, tant pis, hein, je vais donner son nom, il s'appelait Arthur Weigall, c'était un égyptologue anglais, de qualité d'ailleurs, et qui a été terriblement jaloux de Carter. Mais alors à un point, comme d'ailleurs beaucoup de ses collègues, hein, Carter n'a jamais été reconnu comme un grand archéologue dans le petit monde de l'égyptologie. Maintenant oui, mais à l'époque c'était pas du tout le cas. Donc il a ce Weigall, bah, il travaillait pour un journal qui était opposé à celui pour lequel travaillait Carter. Et donc, il a inventé l'histoire de la malédiction. Il dit, vous avez vu, un tel est mort, un tel est ressorti. Bon, alors, en fait, il y a une photo célèbre où on voit toute l'équipe de fouilles de Carter dans la tombe. Et parmi tous ceux-là, ils ont tous vécu assez vieux. Carter compris. D'ailleurs, bon, s'il y a une malédiction de Toutankhamon, c'est sur Carter qu'elle est tombée, parce qu'il n'a eu aucune reconnaissance officielle. Il a été chassé d'Égypte. On lui a fermé son tombeau, il a eu des procès, et il n'a même pas eu la moindre décoration de la part de la Grande-Bretagne. Bon, et il est mort dans l'anonymat le plus complet, et pas du tout fortuné, hein, pas d'or. Donc, c'est vrai que cette malédiction, bon, bah, c'est un coup médiatique. Alors, ça a fait immensément parler de Toutankhamon.
Mais oui, du coup, tout le monde parle de Toutankhamon. En tout cas, son or, je crois, va être transféré dans le grand musée égyptien qui doit ouvrir prochainement au Caire. Hein, on pourra.
Oui.
Moi, j'ai eu la chance de le voir dans l'ancien musée, mais
bien sûr.
Je pense que le nouveau musée va bientôt ouvrir. En tout cas, merci Christian Jacques d'avoir été avec nous. Je rappelle deux de vos ouvrages, L'affaire Toutankhamon et Toutankhamon, l'ultime secret. Et vous venez de publier aussi Égypte, L'ultime espoir, la vie héroïque du grand prêtre Pétosiris, aux éditions XO, naturellement. L'incroyable destin d'un grand prêtre devenu un combattant. Trahison, ruse, complot, un thriller haletant au cœur de l'Égypte antique, comme vous savez si bien nous la faire revivre. Merci beaucoup.
Merci Christian Jacques.
Merci de votre accueil.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, vous le savez maintenant, c'est on raconte l'histoire sans se la raconter. Et avec nous, on a quand même la chroniqueuse, c'est de l'or en barre. Hein,
on peut le dire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous entraîne tous les jours dans l'intimité de l'histoire.
Ah oui, mais enfin là, je vous entraîne dans un coin sombre qui n'est pas la tombe de Toutankhamon, mais la prison pour dettes. La prison pour dettes, elle ne date pas d'hier, elle a été créée par le roi Philippe le Bel en 1303. Et alors en fait, le débiteur était considéré comme le prisonnier de son créancier. Il n'était pas le prisonnier du roi. Pour le roi, ça créait une ressource fiscale, parce que sur la vie du créancier, il fallait un écrit royal, un saint royal. Bon, donc un peu d'argent pour l'État. Et puis, ça avait un autre avantage, la prison pour dette, c'est que ça évitait que le débiteur et le créancier se mettent à se taper dessus. Hein. Alors, comme les frais de séjour du créancier... Non, le contraire, comme les frais de séjour en prison pour dette étaient à la charge du créancier, bah, il n'avait pas intérêt à ce que son débiteur reste en prison, en effet, parce que s'il restait en prison, il ne pouvait pas payer. Donc il fallait au contraire qu'il sorte, qu'il se mette au boulot pour payer ses dettes. Donc à Paris, deux prisons pour dette, Clichy et Sainte Pélagie. Alors, c'était des prisons pour dette. Hein. En réalité, c'était des prisons qui avaient des cellules dédiées aux débiteurs. Et à Paris, la durée moyenne de séjour en prison pour dette était de 102 jours et de 72 jours dans le reste de la France. C'est curieux, ça. Et alors, ça durait plus longtemps à Paris. Peut-être qu'il y avait plus de quoi festoyer à Paris et que du coup, voilà, la vie parisienne,
c'était joli, mais c'était pas
la joie d'y être enfermé. Hein. Alors en fait, la prison pour dette, ça valait pas vraiment la peine parce que ça coûtait dans les 900 francs aux débiteurs et donc pour toute créance inférieure à 1000 francs, si vous voulez envoyer quelqu'un en prison pour dette, bon, il y avait une certaine disproportion entre l'instrument et l'objectif poursuivi, c'est pourquoi on a fini par l'abolir en 1867. Mais tout au long du 19e, dans l'œuvre de nos plus grands romanciers, oui. La prison pour dette est présente. Évidemment, on pense tout de suite à Balzac. Balzac qui déménage toutes les 5 minutes pour que ses créanciers ne puissent pas lui courir après. Je ne sais pas si vous avez visité, Mathieu, la maison de Balzac.
Non.
Juste en face de la
oui.
Seine. Là.
C'était un projet que j'avais.
Mais... vous voyez qu'il avait choisi délibérément cette maison parce qu'on y rentre vers le haut de la rue, là, et puis on peut fiche le camp par une rue, par en bas, à l'étage
très
en dessous.
Pratique,
donc dès qu'on lui annonçait ses créanciers, il partait en courant. Enfin, Balzac, qui était constamment endetté, a quand même échappé à la prison pour dette grâce à des amis. Par exemple, en 1837, c'est une de ses amies, la comtesse Guido Boni Visconti, qui paie pour lui 1830 francs, ce qui est quand même une grosse somme, pour l'éviter Clichy. Mais cette question de la prison pour dette est partout dans son œuvre, dans la comédie humaine. La cousine bête fait enfermer Venceslas à Clichy. Le comte Maxime de Trailles est menacé de prison pour dette. Alors, autres auteurs constamment à court d'argent et menacés de la prison pour dette, Dumas et Baudelaire, bien sûr. Ils courent constamment après l'argent, mais ils n'ont pas pour autant fréquenté Clichy ou Sainte-Pélagie, alors que Nadar, le célèbre photographe, y a passé un mois en 1850, et Poulet Malassi, qui était l'éditeur des Fleurs du Mal de
Comment
Baudelaire.
Poulet Malassi aussi,
Poulet Malassi, c'est l'éditeur des Fleurs du Mal. Et ben, il a passé aussi, il a séjourné en prison pour dette à Clichy en 1862. Alors, celui, il y a un numéro qui va passer pratiquement 2 ans à Clichy, c'est Léon, le fils aîné de Napoléon.
Ah oui, le comte Léon.
Le comte Léon, il a passé 2 ans en prison pour dette. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'était vraiment un petit malin. C'est, au bout d'un moment, il en a marre d'être là. Et donc, il fait passer un avis de décès, de son propre décès, dans la commune où résidait son principal créancier.
Ça,
alors, du coup,
malin.
Le créancier se dit, il est mort, j'ai plus besoin de payer pour lui. Et hop, Léon, du coup, est libéré. C'était quand même très, très marrant. À Clichy, et il rencontre un certain Swann. En fait, quand il arrive en prison, 2 geôliers en gants blancs viennent lui donner la carte de visite de ce monsieur. Swann était un riche négociant américain, un ami de Washington et de Lafayette. Et il avait été mis en prison pour dette à Clichy en 1808 pour la somme de 60 000 francs. Hein. Donc, quand le comte Léon arrive en prison à Clichy, Swann y est déjà depuis 29 ans. 29 ans hein. Alors, parce que pour un Français, la contrainte par corps, ça ne pouvait pas dépasser 5 ans, mais pour un étranger, c'était...
Mais comment voulez-vous qu'il rembourse ses dettes s'il est en prison pendant 29 ans?
Non, il s'en foutait, ce n'était pas son problème, parce que si vous voulez, sa fortune s'élevait à 3 ou 4 millions, donc il aurait très facilement pu payer tout ce qu'il devait, mais il prétendait ne pas devoir 60 000, mais 6 000 francs. Donc il refusait de payer...
Les anciens, les nouveaux francs.
Il refusait de payer cette somme, même si pour ça, il devait passer toute sa vie en prison. Donc il avait fait savoir à sa femme et ses enfants qu'il les déshériterait jusqu'au dernier sou s'ils avaient le malheur de payer ses dettes. Alors, comme il était très riche, il payait les dettes de tous ses voisins de cellules pour pouvoir récupérer leurs cellules et constituer un spacieux appartement qu'il a fait meubler somptueusement. Il avait donc 5 cellules à lui tout seul, 2 geôliers en gants blancs, puis il recevait ses invités au cours de repas servis dans de l'argenterie et fournis par le meilleur traiteur du moment. Et puis par ailleurs, il louait une maison rue de Clichy pour sa famille, ses maîtresses, ses amis de passage.
Ils avaient l'air de se compliquer la vie.
Extraordinaire. Alors il y avait 2 voitures attelées à leur disposition pour aller se promener, pour aller au spectacle, etc. Ils étaient entretenus aux frais de Swann, qui ne leur demandait qu'une chose, en compensation, hein, c'était de venir leur faire le récit de leur vie parisienne. Alors, le fils Léon, dont je vous parlais à l'instant, je reviendrai une autre fois sur son sort, parce que c'est quand même un sacré coco, mais sachez qu'à 33 ans, c'est-à-dire l'âge auquel son père était à quelques mois d'être couronné empereur à Notre-Dame, le comte Léon lui était en prison pour dette à Clichy depuis 2 ans, et il y composait ces vers immortels. En ce lieu, je ris et je dors bien, comme si je ne devais rien. Et zon, 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 vive la prison. Alors, comme on peut le voir, le comte Léon n'était pas Napoléon, mais c'était pas Rimbaud non plus. Hein.
Ah oui. Mais dites-moi, mais comment le fils de Napoléon pouvait être désargenté?
Ah, parce que qu'il a carbonisé sa rente. Oui, c'est un personnage très pittoresque.
D'une maîtresse. Ouais.
Je vous raconterai sa vie une autre fois, parce que si vous voulez, c'est vraiment le soleil noir de l'empereur. Oui. Comme le disait Napoléon lui-même, on peut s'arrêter quand on monte, jamais quand on descend. Et Léon, il a terminé à Pontoise, marié à une femme de ménage qui a fait la manche pour payer les 4 planches de son cercueil.
Ne déflorez pas votre prochaine chronique, Clémentine. On a envie d'entendre.
Il était la moitié de Napoléon.
Oui. C'est et de sa mère, Napoléon et Léonore de Nuel de la Plaigne, chacun lui avait donné la moitié de son prénom. Et lui-même disait, avec des parents comme les miens, n'avais-je pas tout pour n'être rien. Et en effet, il ne fut rien.
Il l'avait bien analysé. Freud n'était pas encore là. Mais
dites-moi, il est bien ce Swann. Mais moi, j'aurais
préféré... Ça vous fait envie, Stéphane ?
Non, mais c'était plus simple de payer. Parce que ça lui a coûté finalement plus cher que toute la dette qu'on lui réclamait.
Bien sûr, mais c'était un homme qui avait de la... Oui, oui, il était entêté. Hein.
Question de panache. En aurez-vous dans le quiz ? Ça, qui vivra verra. Oui.
16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Chaque jour, quand arrive le moment fatigue du quiz, tel un cheval peureux, il se dérobe devant l'obstacle. Clémentine est alors obligée de lui donner un petit coup de cravache pour qu'il accepte de l'affronter. Stéphane prend alors son courage à deux mains et s'exclame avec une intonation guerrière qui trahit ses chances de succès.
Bon, bah allons-y.
Jouons à Burn to be Alive. Ce quiz fratricide. Stéphane, première question pour vous, j'espère qu'elle n'est pas trop dure. Le premier duc de Clarence. Oh, ça, dès qu'il y a des nobles, à mon avis, vous avez une chance de gagner. Le premier duc de Clarence, Georges Plantagenet, a été condamné à mort pour avoir préparé un complot contre le roi d'Angleterre, Édouard IV. Comme dernière volonté, il a demandé à être fusillé sur son cheval. Vrai ou faux ?
Quoi ou ?
Ah, oui, c'est des nobles, mais ça remonte à loin.
Belle question.
A priori, je ne le sais pas, mais...
Un des premiers Plantagenet, c'est ça, c'est Stéphane ?
Oui, le premier duc de Clarence, Georges Plantagenet.
Fusillé, il n'aurait pas été... Ah oui.
Si on fusille...
Oui, il a demandé à être fusillé sur son cheval. Il l'aurait demandé à être fusillé sur son cheval.
C'est beau comme idée,
ça. Une belle mort. Hein.
Il voulait mourir en se battant ou à cheval.
Je dirais non. Il n'y a pas de fusil.
Vous diriez non.
Vous avez gagné.
Il a gagné. Bravo Stéphane. Comme quoi, c'était complètement au hasard ou...
Non, pas du tout.
Déduction avec les fusils. Oui, effectivement, faux. Non, alors il a eu une requête étonnante. Comme il adorait l'alcool, il a demandé à être noyé dans un tonneau de vin. C'est en 1478, on savait vivre à l'époque, voyez. Question numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Quand on atteint au cricket le score de 111, on appelle ça faire une Nelson, qui est un hommage non pas à Nelson Montfort, mais à l'amiral Nelson. Vrai ou faux ?
Alors, intuitivement, je dirais que c'est vrai, mais pourquoi 111 alors que Trafalgar, c'est 1805, l'année de la mort de Nelson. Donc, quel est le rapport entre 111 et l'amiral Nelson ? C'est ça que je ne comprends pas. Il n'y avait pas 111 bateaux en tout, il y avait pas, je ne vois pas le chiffre 111 dans l'histoire de Trafalgar. Je vais dire oui quand même, parce que je trouve cette
vous
histoire
dites oui.
est belle. Oui.
C'est la
oui.
réponse que vous avez choisie.
Vous avez gagné.
Comme quoi, le hasard parfois fait bien les choses. Non, vous avez suivi votre intuition. C'est la bonne réponse, mais je ne crois que je ne vais pas pouvoir vous expliquer pourquoi.
Ah bon, pourquoi
selon la légende, il aurait perdu donc, l'amiral Nelson lors de toutes ses batailles, un bras, un œil et une jambe. Oui, or, il n'a jamais perdu de jambe.
Jamais... Non, c'est du petit Thouars qui a perdu une jambe pendant la bataille d'Aboukir. Et il s'est fait planter dans un baril de son avec son unique jambe, et il continuait à aboyer des ordres en demandant qu'on clouât le drapeau français sur le mât. Parce que vous savez, quand on amène le drapeau dans la marine, ça veut dire qu'on s'avoue vaincu. Mais jamais Nelson n'a perdu une jambe. Qu'est-ce que c'est que
non, il
n'a
pas perdu de jambe, mais il a perdu le reste.
Bah
il
oui, un œil, d'accord, et un bras.
Alors attention, parce que là, les arbitres de touche sont en train de débattre du fait que... Est-ce que vous avez droit à un point ou deux points pour cette réponse argumentée ?
Non mais attendez, non mais...
Ah, Stéphane, une réclamation, Stéphane, non, vous pensez qu'elle mérite qu'un seul point ?
Le CAF se rebiffe.
C'est quand même Stéphane qui décide. Un seul point. Un seul point. Stéphane, question numéro 3. Question sur la vie de la grande historienne Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oh, vrai.
Des questions vraiment très très précises. Dans sa famille, on lui a trouvé un chouette surnom, celui d'un massacre qui a fait 20 000 morts. Vrai ou faux ?
La Saint-Barth... Enfin, je sais qu'elle est parpaillotte, donc je vais éviter de la froisser.
Oui, jamais très... personne ne m'a appelé Saint-Barthélemy. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Donc quelle est votre réponse, Stéphane ? C'est vrai ou c'est faux cette histoire ?
Vous avez un autre surnom ?
Un surnom qui serait suivi d'un massacre qui a fait 20 000 morts quand même.
Non, non, je ne crois pas.
Ce serait franchement étonnant.
Non, c'est vrai.
Ah, comment
c'est
ça, c'est vrai ?
C'est vrai ? Je vous dis, c'est vrai.
Vous avez gagné !
Vous avez changé votre fusil d'épaule au dernier
oui,
moment.
Parce
vous
que
avez
au
eu
moment
raison.
Oui.
Alors, vous ne le savez pas vous-même, Clémentine, non. visiblement, comment les gens non. vous appellent dans votre dos. On vous surnomme Catine.
Ah, bah oui, bien sûr.
Ah Ah, elle avait oublié son propre surnom.
Ah, mais Katyn, c'est, ah, oui, pas, Katyn, c'est pas le massacre de Katyn.
Ah, bah, ah si, Katyn, c'est l'URSS qui a tué 20 000 Polonais,
oui,
quand
ça,
même.
Ça, hein. C'est vrai, le massacre de Katyn. Ah, vous avez raison, mais oh, c'est vraiment, c'est tellement tiré par les cheveux. Oui, 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 bien sûr, mais c'est C-A-T-A-I-N, pas K-A-T-Y-N.
La personne qui conçoit ce quiz a tendance à faire des questions qui
mais
sont tirées par les cheveux.
Comment c'est-il un truc pareil?
C'est
incroyable.
Tout sur vous. Mais on dit que quand même le massacre de Katyn.
Oui, c'était horrible. C'est vraiment. C'est d'ailleurs une pomme de discorde entre la Russie et la Pologne.
Oui, d'ailleurs, les Russes ont tenté de faire croire que c'était les nazis, mais en 1990, ils ont reconnu que c'était eux.
Ils ont été obligés de reconnaître que c'était eux.
Voilà, vous m'embouchez.
Et voilà votre très joli surnom. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Justement, à l'époque des premières constructions des pyramides en Égypte, il y avait encore des mammouths. Vrai ou faux ?
Mais c'est faux.
On ne va pas en Égypte.
Non, c'est faux.
Ah, ma question ne va pas jusque-là. Parce qu'à cette époque des premières constructions de pyramides, il y avait encore des mammouths.
C'est faux.
Vous avez perdu.
Et j'aurais perdu aussi, je le confesse, puisque j'ai même demandé à ce qu'on vérifie cette réponse avant le quiz, quand je l'ai découverte. Il y avait des mammouths à l'époque des premières pyramides en Égypte, des mammouths laineux, une race qui s'est éteinte en 2000 avant Jésus-Christ. Il en restait sur l'île de Wrangel, une île russe de l'océan Arctique. Les premières pyramides ont été érigées par la troisième dynastie de l'ancien empire d'Égypte en moins de 2700 avant Jésus-Christ. Les mammouths sont donc contemporains des pyramides. C'est donc...
C'est moi qui gagne.
C'est Stéphane qui l'emporte. C'est Stéphane qui l'emporte.
Désolé de gagner encore une fois, mais je vais faire mentir vos remarques introductives.
Oui, bon, donc Clémentine s'est montée, elle n'a plus besoin de le laisser gagner.
Je me retire, la tête basse et la corde au cou.
Dès lundi, vous pouvez continuer, vous pouvez recommencer à jouer normalement. Bravo Stéphane.
Vous n'oubliez pas mon petit billet.
Je n'oublie rien.
Mais vous êtes.
Oui, j'essaie de gâcher vos moments de triomphe.
C'est le moment de joie dans la vie.
C'est vrai.
Vous êtes en train de les piétiner.
C'est vrai, on n'a pas beaucoup de motifs de réjouissance dans les temps qui courent, donc quand on gagne
et vraiment,
dans le quiz.
Mais comment, Mathieu, vous pouvez gâcher la vie d'un camarade de jeu comme
mais
ça?
Mais pas du tout, je vous titille, mais vous adorez ça.
Oui,
plus.
Oui.
h 18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Qui n'a jamais rêvé de faire fortune en quelques secondes en mettant la main sur une réserve d'or? Même Stéphane, qui est pourtant à l'abri du besoin sur 27 générations, rêve parfois qu'il attaque la BNP à côté d'Europe 1. Un chalumeau, une frontale, il a même un plan.
En passant par les égouts souterrains.
Agile Stéphane, mais ne prenons pas de risques et contentons-nous de vibrer à travers les personnages que nous avons choisis aujourd'hui, des chercheurs d'or des vrais.
Oui, je vous rappelle, le thème, c'est de l'or, de l'or, de l'or. Les 49ers. Ça, c'est mon prochain récit.
Vous le dites si bien, vous le ferez en anglais, le récit, ou ça sera plutôt quand même en français?
Non, je ne peux pas tenir la distance. Surtout devant...
C'est ce qu'on m'a dit.
Non, surtout devant le spécialiste en langues étrangères, David Kreschlop.
On n'ose plus, on n'ose plus on du tout plus, prononcer des mots dans une autre langue face à lui.
Oui. Et vous, Mathieu, vous nous avez dégoté un personnage plus contemporain, plus vivant, qui a un lien avec de l'or.
Oui, un lien paradoxal puisqu'il s'appelle Julien Doré, mais qu'il est absolument anti-bling-bling.
Le monde a changé.
Non, alors ne vous mettez pas à couper, Stéphane, c'est juste pour illustrer. Alors, il faut dire à nos auditeurs que vous êtes un fan
je
absolu.
Je suis un fan absolu de Julien Doré, ça je dois avouer.
Est-ce que vous êtes fan de David Castello-Lopez?
Non, oui, je ne le connaissais pas avant. Je ne le connaissais pas avant
malgré
de le connaître.
Malgré sa renommée mondiale.
Et malgré sa renommée mondiale. Mais maintenant, j'avoue que je suis assez fan de ses chroniques. Justement, il nous raconte l'origine, non pas des pièces d'or, mais des billets de banque.
Tout à fait.
Vous en avez apporté quelques-uns
pour qu'on puisse
apporté, se faire une idée.
Je suis allé les chercher spécialement pour l'émission, alors qu'on voit très bien ce que c'est.
Et puis avec nous, Olivier Pouls, qui lui s'intéresse.
Alors lui, qu'est-ce qu'il a trouvé dans le thème du jour? L'or, voilà.
Bah, j'en profite pour dire que l'or en cuisine, je trouve ça complètement ridicule.
Ah oui, c'est vrai.
Un restaurant à Dubaï où on mange une côte de bœuf à l'or, avec des feuilles de...
Je crois qu'il y a un joueur de foot qui est allé...
À 1200 euros la côtelette.
Et qui a fait des photos avec.
Sur Instagram, ça a bien buzzé. Donc vous nous parlez?
Non, mais moi, plus modestement, de la sauce qui va aller avec la côte de bœuf, pourquoi pas la béarnaise. D'où vient-elle et comment la réussit-on de manière immanquable?
Mais c'est bien meilleur que l'or. Et le mot de la fin, c'est évidemment Stéphane Bern qui l'aura.
Oui, que je vous ai dit cette expression, avoir pourquoi un poil dans la main. Non,
c'est pas, regarde,
en fait, j'avoue, vous êtes un bosseur, donc...
Ah oui, ça ne tient pas du tout.
Ça ne tient pas
vous
du tout.
Vous pouvez me reprocher beaucoup de choses, Stéphane. D'être un con, mais pas d'être un feignant, Stéphane.
Non, ça on ne peut pas.
Et tout de suite, mon cher Stéphane, remontant le ton jusqu'en 1849 à la rencontre des 49ers, ces célèbres chercheurs d'or qui partirent à l'assaut de la Californie. Cette année-là, parmi eux, nos aïeux, Dick Noël et Cassidy Byrne, qui n'ont pas dû trouver grand-chose vu qu'on est là aujourd'hui.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Ils étaient des milliers à beugler comme Joe Dassin.
L'Amérique, je veux la voir et je l'aurai.
Et ils l'ont eu. Stéphane nous raconte maintenant, une fois qu'il aura fini de fredonner Joe Dassin, l'histoire des chercheurs d'or les plus célèbres, ceux de la ruée vers l'or. On les surnomme les 49ers.
Si la Californie est aujourd'hui l'État le plus peuplé des États-Unis d'Amérique au milieu du 19e siècle, où nous partons maintenant, la réalité est tout autre. Quelques milliers de pionniers ont, à l'époque, choisi de dompter ces terres sauvages bien plus faciles que les déserts alentours. Quelques téméraires ont osé s'installer dans la région dans le doux espoir de tirer le gros lot. Johann August Sutter est l'un d'eux. Débarqué sans le sou en Californie en 1839, ce commerçant d'origine suisse est 10 ans plus tard l'un des plus riches propriétaires terriens de toute la vallée de Sacramento. Il possède une tannerie, un moulin, une distillerie, un atelier de tissage, des milliers de têtes de bétail. Bref, Sutter roule sur l'or. Mais l'appât du gain le pousse toujours plus loin. Sa nouvelle idée, c'est de faire construire une scierie. Puisque la région regorge d'arbres, il vendra donc des planches de bois. Pour mener à bien son projet, il engage James W. Marshall. En janvier 1848, alors que l'ouvrier s'affaire à l'ouvrage sur les rives de l'American River, son regard est attiré par quelques scintillements dans l'eau. Par le plus grand des hasards, il vient de mettre la main sur un filon d'or. Sutter est mis au courant, des tests à l'acide sont effectués sur les pépites et la fine équipe exulte. Il s'agit bien d'or et pas n'importe lequel, 22 carats. Presque de l'or pur.
Comme votre gourmette.
J'ai pas de gourmette.
Non mais j'aimerais bien que vous en ayez une, ça vous irait tellement bien.
Oui peut-être, mais écoutez, j'ai pas le temps, là je vous parle des 49ers. Sutter et Marshall s'assoient là sur une mine. Alors, mieux vaut faire de cette fabuleuse découverte un secret. Mais quelques ouvriers mis dans la confidence ne gardent pas le silence.
Forcément.
La nouvelle célébrité finit par se répandre comme une traînée de poudre dorée du nord au sud de la Californie. Si quelques gisements vite épuisés avaient déjà été trouvés par le passé, le filon est cette fois-ci considérable puisqu'il s'étend sur 250 kilomètres. Et le spectacle offert par un chef mormon du nom de Sam Brannan finit par convaincre les habitants du Golden State que leur terre abonde du métal précieux jaune. Quelques semaines après la découverte de Marshall, Brannan investit au galop les rues de San Francisco. Il s'écrie à plein poumon « De l'or, de l'or, de l'or !» Dans sa main, l'homme brandit avec fierté une bouteille remplie de poussière d'or. C'est le début de la célèbre ruée vers l'or. Car la fièvre s'empare de la Californie et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses effets sont délirants. San Francisco, Santa Barbara, Los Angeles prennent tour à tour des allures de villes fantômes. En l'espace de quelques jours, les soldats, les marins désertent, les fermiers abandonnent champs et bétail, les commerçants baissent le rideau, les hommes abandonnent femmes et enfants. The Californian, un journal local, doit même justifier au peu de lecteurs qui lui restent l'arrêt de sa publication en expliquant qu'à l'imprimerie, il n'y a plus personne pour imprimer le journal. Les uns après les autres, les habitants s'arment de pioches, de pelles et autres tamis. Et la fièvre se répand peu à peu au-delà des montagnes de la Sierra Nevada, du Missouri à la Nouvelle-Angleterre, de la Louisiane à la Géorgie. Partout, on plie bagages pour gagner le nouvel Eldorado dans l'espoir d'y faire fortune. Le 11e président des États-Unis, le démocrate James Knox Polk, y est pour quelque chose. Au mois de décembre, il a annoncé la prodigieuse découverte aux membres du Congrès pour mettre en avant la réussite de sa politique expansionniste. Car, ironie de l'histoire, une semaine après la découverte officieuse de Marshall, le traité de Guadalupe Hidalgo entérine l'achat de la Californie par les États-Unis d'Amérique. Le Mexique, terre des conquistadors, venait de vendre l'Eldorado si souvent rêvé. Après l'annonce, le monde s'embrase. 1849 est l'année des orpailleurs, qui affluent des quatre coins du monde par dizaines de milliers. Ces chercheurs d'or, on les appelle les 49ers, comprenez les 49ers. L'engouement est tel Quand l'espace de quelques mois, la population présente en Californie explose. La brillance de l'or valait bien de risquer sa vie en bravant vents et marées, comme monts et déserts. Car pour la plupart des 49ers, le voyage n'est pas sans danger. Des centaines de chercheurs en herbe y laisseront même leur peau. Il faut que vous ayez conscience de ça, mon cher Mathieu.
J'en ai conscience, Stéphane, pour vous m'agresser.
Non, j'essaye d'appuyer mon propos.
C'était dangereux, mais vous l'appuyez merveilleusement, Stéphane, avec des intonations lyriques.
En provenance du Midwest et de l'Est du pays, des chercheurs d'or américains forment des convois de chariots, empruntent de longues pistes comme la California Trail pour un périple d'au moins 3 mois. Et si leurs rêves de richesse n'ont pas été ruinés par la rencontre sur la route de quelques bandits mal intentionnés ou d'Indiens avec leurs flèches, reste aux 49ers une étape des plus difficiles. Car aucune route ne permet d'éviter la barrière montagneuse que constitue l'imposante Sierra Nevada. Les chercheurs d'or en provenance de l'étranger doivent, quant à eux, s'entasser dans des navires pour espérer gagner la baie de San Francisco et passer la porte d'or. Et là encore, il n'est pas rare de voir des équipages entiers suivre la foule des passagers sur les chemins de l'or, laissant capitaines et armateurs sans personnel. À l'arrivée, beaucoup de monde, des milliers de tentes, des villes boueuses défigurées par les mines, un Far West dangereux et de nombreux espoirs déçus. Car parmi les 300 000 prospecteurs, au fond, très peu feront fortune.
Mais on a du mal à imaginer comment ils se répartissaient les choses, d'ailleurs. Quand ils sont en train de creuser une rivière, comment, si l'un voit de l'or, l'autre risque de brandir son pistolet et lui dire « donne-le-moi ».
Ah, mais c'était des risques qu'ils encouraient, vous avez tout à fait raison. Face à cette marée humaine, qu'est-il advenu
mon
de Sutter et de Marshall, dont la découverte a constitué le premier souffle du vent de folie qui s'est emparé du monde? En seulement 2 ans, le filon a produit environ 80 millions de dollars d'or. Mais face à tant de concurrence, les pauvres n'ont jamais pu en tirer profit. L'histoire retiendra tout de même qu'en construisant une scierie, Sutter avait vu juste, car face à l'explosion du nombre d'habitants, beaucoup de planches furent nécessaires pour construire de nombreuses cabanes et caravanes qui, depuis quelques années, franchissent les montagnes rocheuses.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Pour continuer d'évoquer ceux qui se sont rués vers l'or dans l'Ouest américain, on accueille notre invité Annick Foucrier, Stéphane.
Oui, qui est historienne, spécialiste de l'histoire d'Amérique du Nord, l'auteur du rêve californien, migrant français sur la côte pacifique chez Belin. Au moment de la découverte de l'or, on est en 1848, la guerre contre le Mexique vient de s'achever. Quelle est au fond la situation politique en Californie? À qui appartient il se passe quoi là-bas?
Alors donc, je reprends, 24 janvier 1848, c'est la découverte des premières pépites d'or sur les terres de Johann Sutter. Mm-hmm. Et quelques jours plus tard, 2 février 1848, le traité de Guadalupe-Hidalgo, qui termine la guerre entre les États-Unis et le Mexique, guerre qui avait été commencée en 1846. Et à ce moment-là, le Mexique est obligé de renoncer au Texas et de vendre tout ce qui est actuellement le sud-ouest des États-Unis. Il perd ainsi la moitié de son territoire. Donc, du fait de la guerre, la Californie, en 1848, est encore sous autorité militaire américaine. C'est l'armée américaine.
C'est le Far West comme on l'imagine, comme les films nous le montrent, c'est-à-dire c'est sans foi ni loi.
C'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, il y avait une société mexicaine qui existait. Mm-hmm. Les premiers, alors d'abord, il y a eu les tribus indiennes qui se sont installées, mais à partir de 1769, ce sont des Espagnols qui colonisent la Californie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a tous ces noms espagnols, mm-hmm. Los Angeles, mm-hmm. San Francisco. Ce n'est mm-hmm. pas les Américains oui. venus de l'Est qui ont...
Nous, quand on était gamin, on regardait, je ne sais pas vous, mais moi, je regardais les
Zorro.
Non, et puis oui, Zorro, mais aussi tous les films de cow-boys, vous savez, d'Indiens, c'est la rue vers l'or. Et donc, on voyait, par exemple, donc, ils arrivaient, ils essayaient de prendre des terres. On a l'impression que ces terres n'appartenaient à personne. Et puis,
les gens
s'installaient.
Alors, justement, avant, il y a en effet toute une société qui est d'abord espagnole, ensuite mexicaine. À peu près 14 000 Mexicains et environ un millier d'étrangers, dont une cinquantaine de francophones quand même, français et canadiens français. Donc il y a une vraie société, il y a des lois. Contrairement à ce qu'on a pu imaginer à une certaine époque, c'est pas une terre vierge. Mm-hmm. C'est une société qui est mexicaine, avec des lois qui sont des lois mexicaines.
C'est ces lois qui ont été bafouées et balayées.
Voilà, la capitale, c'est Monterrey. à l'époque, et c'est là que se trouve le gouverneur mexicain. À partir du moment où les États-Unis achètent la Californie, à ce moment-là, ils installent... c'est donc le gouvernement fédéral qui possède toutes les terres, sauf les terres qui étaient déjà propriété privée avant. Et là, il va y avoir une longue spéculation pour essayer de récupérer toutes ces terres qui appartenaient donc à des Mexicains. Et à partir de 1851 en particulier, parce que avec toute l'arrivée de ces populations, au début, c'était les mines qui les intéressaient. Puis ensuite, c'est l'agriculture aussi. Donc, les terres qui sont très fertiles, en particulier, vous pensez à la Grande Vallée, eh bien, ces terres, il y a eu toute une bataille pour se les approprier.
Mais est-ce qu'on n'a pas maximisé un peu ou exagéré cette ruée vers l'or, tous ces orpailleurs? Très peu ont fait fortune en réalité.
Alors, c'est vrai, mais tout de même, ceux qui sont arrivés les premiers, parce que en fait, voilà, en 1848, début 1848, donc on a ces premières découvertes. Comme vous l'avez bien expliqué, ensuite l'information va circuler. Oui. San Francisco, Monterey, et au-delà, effectivement. Et en fait, c'est comme des ricochets dans l'eau. C'est d'abord la Californie, ensuite le Mexique, après ça va à Hawaï, et de plus en plus loin, jusqu'à l'Amérique du Sud. Donc les premiers qui arrivent, ils n'ont d'une certaine façon qu'à se baisser pour ramasser de l'or.
Premier arrivé, premier servi, ça pose la question de votre livre. Quid des chercheurs d'or français? Parce que nous, le temps que la nouvelle arrive chez nous, qu'ils arrivent là-bas, ils ont ramassé les bouts de pépites.
Alors, on estime qu'il y avait d'abord des Français qui habitaient en Californie en 1848. Certains ont fait d'ailleurs de très belles découvertes. Par exemple, il y a ce petit village qui s'appelle Moquelumne Hill sur la Nationale 49. 49, évidemment, comme les 49ers, qui actuellement fait peut-être 800 habitants. À l'époque, on faisait des milliers. Et l'or a été découvert par deux frères, les frères Fourcade, qui étaient originaires de Gironde. Et au début, ça s'appelait les Fourcade. Et puis après, ça s'est appelé Moquelumne Hill. Mmh. Donc voilà, Claude Chana a découvert, qui était aussi un Français qui venait du côté du Poitou, qui a découvert de l'or à Auburn. Et donc, ça a été le début. On voit encore, d'ailleurs, une énorme statue qui commémore. Alors, c'est un mineur avec son instrument pour recueillir l'or, et ça commémore justement la découverte de Claude Chana. Puis ensuite, il y a eu tous ces Français qui sont arrivés de France, parce qu'ils ont entendu parler par les journaux.
Mais c'était
surtout
trop tard pour eux.
Alors oui, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont fait des très 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 belles fortunes.
Il y a par exemple un Bavarois qui s'appelait Lévi-Strauss, il a fait fortune en vendant de la toile pour
les premiers jeans.
Les premiers jeans pour les orpailleurs.
Mais il a vendu à des commerçants qui ensuite vendaient aux mineurs. Voilà. Et en fait, le blue jean, c'est 1873 avec les rivets.
Oui.
Donc c'est un peu plus tard. Mais par exemple, ceux qui ont vraiment fait fortune, vous avez ce qu'on appelle les quatre grands, les Big Four. C'est-à-dire, par exemple, il y a Collis Huntington, il y a Leland Stanford, le fondateur tout de même de l'université de Stanford, Mark Crocker. Et puis Charles Crocker, pardon, et Mark Hopkins. Et donc ceux-là, ils se sont associés, ils étaient commerçants à Sacramento, ils ont fait fortune. Et ensuite, ils ont encore augmenté leur fortune en investissant dans la partie ouest du chemin de fer du transcontinental, de 1862 à 1869.
Ça, le chemin de fer aussi, ça évidemment, c'est toute l'épopée de l'Amérique à ce moment-là.
Absolument.
Parce que ça a ouvert des voies. Sans
mais ça, c'est un peu plus tard, parce que
oui,
c'est
sûr,
terminé
c'est après,
en 69.
C'est après la ruée vers l'or, absolument. Oui. En tout cas, c'est passionnant. Je renvoie la lecture de votre livre, Annick Foucrier, pour en savoir plus sur la ruée vers l'or. Rêve américain, migrant français sur la côte pacifique. C'est publié chez Belin.
Merci.
Merci à vous.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui étaient fascinés par l'or. Mais après Toutankhamon et les chercheurs d'or américains du 19e siècle, vous avez choisi, Mathieu, d'évoquer un contemporain qui, lui, n'est pas fasciné par l'or,
non.
Même qu'il y a de l'or au fond de la glotte magique de sa voix.
Oui. De l'or au fond de la culotte.
Mais oui, il a de l'or dans sa
ça
voix.
Ça vous est venu comme ça, Stéphane?
Oui, vous savez, parfois j'ai des licences poétiques. Et il est carrément en or, comme son nom l'indique, c'est Julien Doré.
Oui, Stéphane, il y a longtemps que je rêve secrètement de me payer Julien Doré, qui incarne pour David et moi, c'est-à-dire pour tous les mecs des années 80 qui n'ont pas eu son succès avec les meufs, le prototype du playboy nonchalant qu'on a envie d'assommer avec son ukulélé.
Pourquoi ?
Depuis ses débuts médiatiques à La Nouvelle Star en 2007 et au fil de ses albums, dont le dernier vient de sortir, Julien Doré a instillé dans l'esprit des femmes, qui potentiellement pourraient être les nôtres, cette idée dangereuse que l'homme idéal existe.
Je sais que tu rêves.
Déjà, l'homme idéal a évidemment une voix suave qui invite à des égarements horizontaux, mais pas seulement. Car normalement, c'est le problème des chanteurs beaux gosses, leur beau-gossitude s'accompagne généralement mathématiquement d'un côté froid, hautain, voire macho, bling-bling, tout ça à la fois parfois. Ce qu'il y a d'insupportable chez Julien Doré, c'est qu'il évite lui tous ses écueils et déjoue tous les stéréotypes du chanteur lover à succès. Il porte la dorure en son nom, mais la simplicité en sa chair. Et c'est pourquoi vous êtes nombreuses et nombreux à l'adorer, à commencer par Stéphane Bern, un des plus grands fans de Julien Doré, vous me confirmez?
Ah, j'adore ce garçon.
Par rapport à Tino Rossi et André Dassary, dans votre panthéon personnel,
je suis vraiment fan de Julien Doré.
Et humainement aussi.
J'adore ce garçon.
Alors voilà, c'est un petit gars bien de chez nous, un petit gars du sud, natif d'Alès dans le Gard, qui n'a jamais renié ses racines et qui, comme Jean-Michel Apathy, mais avec beaucoup plus de cheveux, a choisi de faire de son accent sa fierté. C'est là que nous arrivons aux deux seuls points communs entre Julien Doré et moi. Nous sommes tous deux nés en 1982 et tous les deux nous avons galéré avec les filles.
Ah oui, Stéphane, galéré.
Alors aussi fou que ça puisse paraître aujourd'hui que nous sommes devenus des sexes symboles, surtout moi. Julien Doré a connu à l'adolescence de longues années de disette sentimentale. Oui, c'est ce qu'il dit. Les filles matheuses de l'école ne me calculaient pas, déclare-t-il, sans qu'on puisse toutefois vérifier si c'est vrai. Il se pourrait aussi qu'il en rajoute un peu pour ne pas se mettre complètement à dos le public masculin qui, déjà passablement agacé par son succès aujourd'hui, ne supporterait pas d'apprendre qu'il en avait déjà au collège le salopio. La suite, c'est plus une biographie de chanteur, c'est un livre de la collection des Monsieur Madame. Vous savez, je vous présente les aventures de Monsieur Parfait. Dès l'âge de 16 ans, Monsieur Parfait décide qu'il doit gagner sa vie tout seul afin de soulager financièrement ses parents. Il enchaîne alors les petits boulots alimentaires, comme par exemple chez Decathlon ou dans une entreprise de nettoyage de façade. Mais Monsieur Parfait est un artiste quand même. Alors après un passage aux Beaux-Arts de Nîmes, il devient membre de plusieurs groupes dont The Jean d'Ormesson Disco Suicide, avec lequel il reprend chaque soir du Patrick Hernandez et du Émile et Images, conjuguant pour la première fois ses deux passions, la musique et l'humour. A noter que son autre groupe moins connu, The Stéphane Bern Reggae Fever, ne décollera pas. Sans chercher le succès, puisqu'il est parfait, il ne cherche pas le succès, mais un peu quand même, parce qu'il est humain, Julien Doré accède à la notoriété de manière fulgurante en 2007 lors du télécrochet La Nouvelle Star. Il devient, pour toute une génération, le mec sexy à barrette qui joue du ukulélé. Dans la foulée, il est élu homme le plus sexy de l'année par le magazine Elle. Vous n'avez jamais été élu.
Jamais, non.
Homme de... Mais ça viendra peut-être dans les
non,
années.
Non, je pense pas. C'est trop tard.
Vous pensez que vous avez passé l'année d'optimum
oui,
peut-être. Serez-vous étonné d'apprendre que la suite de la carrière de Monsieur Parfait est un sans faute?
Non.
Mais non, bien sûr, les enfants, Monsieur Parfait triomphe avec son premier album, qui remporte notamment une victoire de la musique. Les suivants se vendent encore mieux. Il réussit ce truc dingue dans le showbiz français, se construire une image à la fois chic et populaire, en cultivant le goût pour le décalage, le surréalisme, mais sans aller trop loin non plus. Souvent, c'est vrai, les artistes qui ont voulu aller trop loin dans le décalage se sont coupés du public. On se souvient par exemple de l'album Stéphane Bern chante les Village People.
In the Navy.
Album qualifié par les Inrocks à l'époque de pépite lunaire et indispensable, qui n'avait pas trouvé son public. Julien Doré, lui, étant parfait, sait s'arrêter juste à temps dans le n'importe quoi, comme le prouvent ses albums Bichon et Esperluette, où il cultive son univers atypique tout en respectant les codes classiques de la pop, notamment en produisant des mélodies entêtantes.
Je sais que tu restes. Que je te laisse après la nuit.
La coupe est pleine, les amis. Monsieur Parfait est à gerber de perfection. Un mec en or contre qui j'ai tout tenté. J'ai passé la matinée à entrer des mots-clés dans Google qui auraient été susceptibles de le salir. Julien Doré plus micro-pénis, Julien Doré plus néonazisme, Julien Doré plus mycose panthère. Rien, aucun résultat. Alors je tente le tout pour le tout, je tape Julien Doré hygiène sur Google en me disant qu'avec un peu de chance, au moins il est sale. Pensez-vous? Je suis maniaque, j'ai un gros problème avec le rangement. Je n'aime pas quand les choses se rajoutent dans l'espace, ça m'oppresse. Donc hier, j'ai enlevé de mon étendoir mes chaussettes propres et je les ai rangées. Par cette déclaration, aussi tonitruante qu'invraisemblable, je crois que Julien Doré s'est trahi. En effet, star ou pas star, aucun homme ne range ses chaussettes. L'homme normal perd ses chaussettes, justement parce qu'il néglige de les ranger. Oui Stéphane, j'avance ici que Julien Doré est une imposture, car il est trop parfait pour être vrai. Ultime preuve, son humour qui régale ses followers sur les réseaux sociaux. Exemple, lorsqu'un jeune homme écrit Mon père, il kiffe Julien Doré, je vous raconte pas l'enfer en voiture. Julien lui répond publiquement, va dans le coffre. En tombant sur la news, ça c'est ma préférée, il tombe sur la news, Patrick Bruel, son huile d'olive a reçu la médaille d'or. Il commente, putain, enfin une bonne nouvelle dans cette période morose. Humoriste, chanteur, humaniste, sex symbole, rien ne semble pouvoir entacher le portrait. Ah si, je viens de trouver, j'ai le scoop qui va faire plonger Doré. Je lis article sur le site du Dauphiné. Insolite, les poneys d'un clip de Julien Doré sont ardéchois alors que le clip est tourné en Camargue. Sale affaire, Julien Doré résistera-t-il au bad buzz? Rien n'est moins sûr, Stéphane.
Voilà, ben c'était... Ah, ça m'a touché vraiment que vous ayez fait le portrait de Julien Doré.
Oui, vraiment. je sais, ça vous a touché.
Il y a son, troisième, son nouvel
est-ce
album.
Est-ce que vous aviez son dernier album?
Mais je l'ai reçu. Oui, parce que je l'ai acheté. Et il m'a envoyé.
Je l'ai reçu. Parce
non,
que
alors je vous explique.
Comment
je vous l'explique, je vous explique. Je l'ai acheté.
Oui.
Je l'ai acheté.
Oui.
Et je l'ai écouté, je lui ai envoyé un message.
Oui.
J'adore ton nouvel album. Et il me dit, je t'envoie le collector, mais je l'ai jamais reçu.
Ah bon,
enfin,
ça,
alors,
il est pas parfait.
Vous savez, avec des changements de radio, à mon avis,
il est menteur.
Avec
il
des changements de radio, si je pense que, ayant changé de clavier, il l'a envoyé dans une autre radio où, comme ils sont un peu bon, ils ont tout gardé.
Oui, on les connaît.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Dernière demi-heure d'Historiquement vôtre. Et l'histoire, c'est bien, mais surtout quand elle nous raconte notre quotidien. David Castello-Lopez, aujourd'hui, c'était une spéciale chercheur d'or. Vous nous parlez des billets de banque. D'où ça vient?
Tout à fait. Franchement, déjà, moi, je trouve que c'est complètement émerveillant, les billets de banque. Hein, j'en ai apporté un certain nombre ici. Tiens, calmez-vous, monsieur. Non, je veux dire, c'est quand même magique. C'est des morceaux de papier qui, fondamentalement, sont identiques à n'importe quel autre morceau de papier. Je veux dire, ils sont en papier. Sauf que eux, par une sorte de magie sociale incroyable, eh ben, tout le monde est d'accord pour dire que non, c'est pas juste du papier, c'est de l'argent. Et si je vous le donne, Mathieu, vous serez super content.
C'est vrai.
Et si je descends à la boulangerie et que je donne à la boulangère ce papier, elle me donnera du pain. Et si je lui donne plus de billets, elle me donnera plus de pain. C'est complètement émerveillant. Et si je rassemble encore plus et que je les donne à un chef d'État africain, il acceptera que je jette mes déchets radioactifs dans son parc naturel. C'est génial. Alors aujourd'hui, on s'émerveille même plus tellement, hein, tellement ça nous paraît normal. Mais les premiers occidentaux qui ont vu ça, ça leur a complètement trouvé le... Ils ont été complètement troués.
Hein,
voilà. Et l'un des premiers qui a vu ça, c'est Marco Polo. Marco, vous le connaissez, c'est un type du XIIIe siècle qui voyageait pas mal, notamment en Chine. Et un des trucs qu'il a le plus sidéré, Marco Polo, ce sont les billets de banque qui avaient été inventés par les Chinois environ 300 ans plus tôt, autour de l'an 1000. C'est Tim Harford qui raconte cette histoire une fois de plus. C'est pas la première fois que je cite Tim Harford, mais qu'est-ce que vous voulez, il est super. Hein. Donc, on était autour de l'an 1000 en Chine et dans la région du Sichuan, hein, qui était une région frontalière, souvent en guerre. Et donc, l'empereur de Chine, il kiffait pas trop qu'il y ait des réserves d'or trop importantes dans le Sichuan. Il préférait que ce soit du fer. Mais le truc, c'est que le fer, c'est sympa, mais c'est pas hyper précieux. Ce qui fait que si vous vouliez acheter un poney, par exemple, eh bien, vous deviez vous pointer avec une brouette de pièces en fer, ce qui est chiant. Alors maintenant, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut imaginer que dans le Sichuan de l'an 1000, comme aujourd'hui, il y avait un certain nombre de gens qui avaient la réputation d'être à la fois fiables et solvables, un petit peu comme vous, Stéphane. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des marchands qui ont commencé à accepter que ces gens fiables, au lieu d'apporter une brouette de pièces en fer pour payer leur poney, eh bien, ils marquent plutôt sur un bout de papier « Stéphane Bern doit une brouette de pièces en fer à Yang Ming ». Or, dans la région, tout le monde sait, Stéphane, que vous êtes un gars fiable et solvable. Et donc, le bout de papier que vous avez donné à Yang Ming, eh bien, Yang Ming, la prochaine fois que lui doit acheter un truc, à la place de donner du fer,
il peut donner
le bout de papier où il y a marqué que vous devez une boîte de pièces. Et tout ça, c'est basé sur la confiance, hein, Stéphane, que vous inspirez au Sichonnet de l'an 1000. Donc, s'il vous plaît, ne le laissez pas tomber. Vous notez aussi au passage que tant que le billet circule, Stéphane, en fait, votre poney, il a été gratuit pour vous, ce qui est sympa. Hein.
C'est vrai.
Mais oui. Et peu de temps après, l'empereur de Chine, il a fait, mais putain, mais c'est trop cool cette idée. Et il a dit, en gros, à partir de maintenant, il y a que moi qui peut faire ça. Il n'y a que moi qui peut émettre des billets. Au début, les billets chinois qu'on appelait des jiaozi, hein, j'ai pas essayé de le prononcer à la chinoise là, on pouvait les échanger contre du vrai or, mais au bout d'un moment, même plus. C'est-à-dire que la quantité de billets émis n'était plus indexée sur des richesses que l'Empire possédait effectivement.
Ah bon, donc ils étaient là.
Mais oui, et là, ça a été la porte ouverte à toutes les emmerdes, parce qu'évidemment, le gouvernement chinois, il avait besoin d'argent pour payer les trucs. Et c'est quand même super tentant, quand on a besoin d'argent, de juste imprimer des billets. Mais après, il y en a trop. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de billets en circulation?
L'inflation.
C'est l'inflation, ça race. Et votre monnaie, elle vaut...
L'inflation, ça race. C'est un concept économique que Thomas Piketty n'a pas développé dans son dernier ouvrage.
Je l'avais pourtant dit. Hein,
mais
pourtant,
oui, c'est con, il s'est arrêté.
Et votre monnaie, elle vaut de moins en moins, jusqu'à ce qu'elle ne vaille plus rien du tout. Et c'est ce qui s'est passé en Chine. Et dans plein d'autres pays depuis, l'un des exemples les plus récents, c'est le Zimbabwe, qui en 2008 a eu une inflation de 231 millions de pourcents. C'est-à-dire que si au 1er janvier, vous aviez 2 310 000 dollars zimbabwéens, au 31 décembre, ces 2 millions de dollars, il valait plus que 1 dollar. Voilà, c'était ça l'inflation. L'inflation au Zimbabwe. Mais dans l'ensemble, les États, ils ont appris avec le temps à résister à la tentation d'imprimer de l'argent. Et donc, 1000 ans plus tard, dans l'ensemble, les billets de banque, ça marche encore. Voilà.
Ça marche encore, mais je dirais qu'on les redécouvre avec ce que vous nous avez apporté,
oui.
Parce que c'est quand même, on vit dans une économie de plus en plus démonétisée.
Mais oui, il y a bien un moment où ça va...
Avec le paiement sans contact, on n'en voit plus beaucoup.
Ça va s'arrêter un moment.
Mais déjà, il n'y aura plus de pièces, il n'y aura plus
ben
de...
Oui.
On parle même d'arrêter les pièces jaunes.
Mais que va faire Bernadette Chirac?
Mais c'est plus Bernadette, c'est Madame Macron maintenant.
Non, c'est pas faux, c'est vrai. Elle a déjà passé le flambeau.
Ouais,
c'est vrai. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Brigitte Macron. C'est important de
bah,
le souligner. C'est vrai, je vous ai mis sur la voie.
Merci David. On retrouve les origines en podcast sur les applis audio et sur le site europe1.fr. Et dans un instant, on va parler nourriture terrestre.
Ah oui, très terrestre, mais très délicieuse, avec la bonne sauce béarnaise de Papa Pouls.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Les méandres du cerveau d'Olivier Pouls sont un mystère pour l'homme, puisqu'aujourd'hui notre thématique, Stéphane, c'était
l'or
et les chercheurs d'or. Et donc chacun, modestement, à sa petite échelle, en tant que chroniqueur, a cherché un sujet qui correspondait un peu à cette thématique. Ah oui. Et Olivier Pouls m'a dit,
c'est de l'or, la sauce béarnaise.
Ah oui, vous le voyez comme ça.
Oui,
parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, manger de l'or, ça ne m'intéresse pas. Franchement, c'est gaspillé.
Oui, les feuilles d'or.
Quand on voit où ça termine en plus,
oui,
franchement...
mais je trouve que, par exemple, les chocolats,
La feuille d'or apporte quelque chose, Stéphane ?
Oui, je trouve, c'est beau.
C'est chic, mais c'est pas
les
très...
Les palais d'or, par exemple.
Eh bien, cette digression nous mène sur des sentiers intéressants. Néanmoins, Olivier, vous nous parlez aujourd'hui...
On s'éloigne.
...non pas d'un dessert, mais d'une sauce.
Oui, et puis j'ai enfin réussi à vous piéger, en tout cas à piéger Stéphane tout à l'heure, puisque quand je vous ai annoncé la sauce béarnaise, vous pensiez que je vous emmenais dans le Béarn.
Alors là, les bras m'en tombent.
Non, pas du tout, puisque la sauce béarnaise a été inventée en région parisienne, figurez-vous.
Par un Béarnais.
Et non, pas par un Béarnais, par un chef à Saint-Germain-en-Laye. Le chef s'appelait Jean-François Collinet. Il officiait dans un restaurant qui s'appelait le Pavillon Henri IV.
Ah, Saint-Germain-en-Laye. C'est là où, prétendument, Louis XIV serait né.
Alors ça, c'est possible, mais c'est en tout cas là qu'est née la sauce béarnaise, ça je le confirme.
C'est plus important, Stéphane. Vous,
êtes, oui, c'est
vous
encore
faites une
plus
obsession
important.
Avec les rois et les reines.
Alors, c'est encore une histoire de recette ratée, en fait. Il avait fait une réduction d'échalotes qu'il a mal maîtrisée. Il l'a rattrapée en rajoutant un jaune d'œuf, il l'a montée au beurre, et puis finalement, ça a donné une sauce avec une consistance et surtout un goût intéressant, qu'il a servi à ses convives. Ses convives ont adoré ça. Et comme toujours, ils ont dit, mais comment ça s'appelle?
Et là,
eh bien, dans le restaurant, il y a un buste d'Henri IV. Et où est né Henri IV?
Dans le Béarn.
Eh oui,
évidemment.
Il est né à Pau. Et donc, Pau, le Béarn, il dit, tac, tac, Henri IV, sauce béarnaise. Et ainsi est né le nom de la sauce béarnaise, qui a ensuite été évidemment améliorée puisqu'on y a rajouté de l'estragon. Et c'est aujourd'hui une des grandes sauces de la cuisine française qui accompagne traditionnellement l'entrecôte ou le tourne-dos. Et c'est une sauce qui est relativement facile à faire, quoique un tout petit peu technique. Alors je vais vous expliquer de quoi il en retourne.
Est-ce pour qu'il y a la même béarnaise... différence? Déjà, je vous pose une question pour les gens qui n'ont pas le temps de cuisiner. Est-ce qu'il y a la même différence entre une mayonnaise maison qu'on fait soi-même ou et les mayonnaises industrielles? Parce que là, je trouve qu'il y a une différence de goût qui est énorme entre une mayonnaise. On ne retrouve jamais dans une mayonnaise industrielle le goût de la mayonnaise maison.
Donc, c'est vrai que de moins en moins de chefs aujourd'hui vous font de la béarnaise minute parce que ça, c'est une chose qui ne peut pas se faire à l'avance, qu'on sert tiède ou un peu chaude, parce que la béarnaise froide, c'est jamais que de la mayonnaise en général stabilisée avec l'estragon dedans. La vraie béarnaise, elle est servie chaude, ou elle est servie tiède en tout cas, et elle ne se garde pas. C'est-à-dire une fois qu'elle est prête, il faut l'envoyer tout de suite. C'est pour ça qu'on la voit de moins en moins dans les restaurants, et je pense qu'il y a de moins en moins de cuisiniers qui sont d'ailleurs capables de la faire dans les règles de l'art. Alors pour la réaliser chez vous ce soir,
j'ai
les amis...
J'ai vu M. Benedicta, il l'a fait dans un pot.
Mais elle est moins convaincante.
Oui, c'est pas pareil.
Et si vous la réchauffez, celle-là, vous allez voir, ça marche pas du tout.
Ah oui.
Alors, vous allez prendre une échalote, 3 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc, 5 cuillères à soupe de vin blanc, un peu d'estragon. Vous allez mettre tout ça dans une petite casserole et vous allez laisser réduire, infuser et réduire de moitié. Vous filtrez, vous récupérez ce petit jus qui est légèrement vinaigré et parfumé, évidemment, à l'estragon. Vous cassez 2 œufs, vous en récupérez les jaunes, vous mettez les jaunes dans la casserole, le petit jus que vous venez de faire, et vous mettez ça dans un bain-marie. Parce que l'astuce, c'est de ne pas cuire les jaunes d'œufs. Si on monte trop haut en température, tac, ça fige, les jaunes d'œufs sont cuits et la sauce est ratée. Donc il faut rester à une température relativement basse. Donc dans un bain-marie, c'est idéal. Et vous allez remuer tout ça, fouetter et rajouter progressivement des petits morceaux de beurre froid, 150 grammes de beurre froid. Et la sauce va figer, elle va monter, parce que énergiquement, vous allez la remuer au fouet pour lui donner un côté un petit peu plus aérien. Vous terminez sel, poivre et de l'estragon ciselé, et vous avez votre sauce béarnaise. Il n'y a plus qu'à cuire votre tourne d'eau ou votre entrecôte saignante, bien sûr, et accompagner tout ça.
C'est pas simple à faire. C'est pas simple à faire, hein, comme recette.
C'est assez rapide, ça met 10 minutes, mais on ne peut pas arrêter. Il faut vraiment tourner en permanence. Et toute l'astuce consiste à ne pas monter trop en température. Et c'est pour ça qu'on met le beurre bien froid, de manière à ce que, à aucun moment, on ne puisse être trop chaud et donc faire coaguler les jaunes.
Le plus simple, quand vous avez une béarnaise à faire, c'est que vous passez un coup de fil à Pulse, il arrive en scooter.
Je viens la faire chez vous directement.
Il a fait minutes et c'est toujours réussi. Moi, c'est le conseil que je donne à nos auditeurs.
Alors justement, merci Olivier. On peut retrouver donc votre numéro de téléphone. on peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à 12h30 sur Europe 1 avec Kev Adams en invité.
Et oui.
Stéphane, dans quelques instants, il va vous revenir de conclure cette émission par votre séquence culte. Le mot de la fin de Stéphane Bern, ce moment où la France s'arrête pour découvrir, grâce à vous, l'origine d'un mot ou d'une expression. Aujourd'hui, une expression qui, j'espère, n'a rien à voir avec moi, que je ne vous ai pas inspiré en tout cas.
Non, vous êtes un bosseur, donc c'est avoir un poil dans la main.
16h, 18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Ce fut un des débats les plus vifs qui animèrent la direction d'Europe 1 lorsque nous étions en train d'élaborer le programme de cette nouvelle émission. Devait-on la conclure par une chronique humoristique de Stéphane Bern ou simplement une chronique journalistique de Stéphane Bern? Très rapidement, on a opté pour cette deuxième solution et à entendre les incursions de Stéphane sur les terres de l'humour, il faut croire qu'on a fait le bon choix.
Il arrive aussi à la Calas d'exiger une limousine avec chauffeur, pas la vache, la voiture.
Aujourd'hui, Stéphane, quel sera le mot de la fin? Chronique journalistique, s'il vous plaît.
Avoir un poil dans la main. Mais je suis encore sous le choc de ce que
de
vous avez dit.
Votre propre blague.
Oui, peut-être, mais en même temps, je vous ai entendu faire des blagues beaucoup moins drôles.
Bien sûr, mais ce n'est pas vous qui prenez les extraits de son, c'est ça
le truc. C'est ça.
Ça, je vous le conseille, vous pouvez vous amuser à faire ça.
Alors, une expression qui, je le concède, est bien loin de votre personne. Vous, le stacanovis de la blague, le forçat de la poilade.
Bon, c'est pas, dès que vous aurez fini de parler de moi, je veux bien que vous nous expliquiez l'origine de cette expression.
Elle date du début du 19e siècle. Elle signifie que ne faisant rien du tout, aucun frottement ne vient au creux de la paume, de la main. Du coup, un poil a tout le loisir d'y pousser. On dit aussi avoir un baobab dans la main, un palmier même, voire une queue de vache. Notez que paradoxalement, ceux qui ont un cheveu sur la langue parlent autant que ceux qui n'en ont pas. Quand on a un poil dans la main, on est un fainéant. Fainéant signifie fait, néant. Comprenez qu'il ne fait rien.
Ouais.
En Angleterre, on utilise une jolie expression « to be work shy », ce qui veut dire avoir une certaine timidité au travail.
C'est l'humour
britannique. Je ne sais pas si ça peut passer comme excuse auprès de son supérieur hiérarchique.
I'm work shy.
En Grèce, on dit être le patron à l'auberge des fainéants. En Espagne, ser más flojo que un muelle de guita, traduisait être mou comme un rideau.
Aussi,
oui,
c'est
pas
visuel.
Mal, parce que c'est... Ouais, oui, c'est ça, ça flotte. Voilà, je trouve que j'ai assez travaillé comme ça aujourd'hui.
Oh oui, ne forcez pas votre talent.
Donc, en fait, vous avez compris, c'est donc quand il y a de la place pour que un cheveu vous pousse, un poil vous pousse dans la paume de la main, c'est que vous ne travaillez pas.
Voilà. C'est bien
au temps où le travail était manuel, évidemment.
Effectivement, mais cela dit, je crois que biologiquement, on ne peut pas avoir un poil qui pousse au milieu de la paume. Est-ce qu'on a déjà vu ça chez quelqu'un? Envoyez-nous vos photos sur europe1.fr. Si vous avez le système pileux suffisamment développé pour que ça pousse au milieu de la paume, Eh bien, envoyez-nous votre photo, on la diffusera. Comme on est en radio, c'est pratique.
Parfait, merci beaucoup. Je vous offre pour nous quitter une dernière citation de Jules Renard.
S'il vous plaît.
La paresse n'est rien de plus que l'habitude de se reposer avant d'être fatigué.
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis. C'est un tel déchirement que j'envisage de porter le deuil jusqu'à demain, 16h. En attendant, Stéphane, qu'est-ce que vous avez retenu de cette émission en or, on peut le dire?
Écoutez, moi je suis encore tout ému que vous ayez consacré une grande partie de cette émission à Julien Doré.
Votre ami Julien
Mon
Doré,
ami Julien
on peut
Doré.
Le dire, mais c'était pas vraiment réciproque puisqu'il ne vous a pas envoyé le CD
qu'il
vous avait
promis. Mais vous savez, c'est une radio concurrente, mais néanmoins ami qui me l'a gardé.
Aïe.
Et je pense qu'ils l'ont mis en vente avec tous mes vieux mouchoirs.
Toutes les reliques
et toutes les reliques de mes tiroirs. Mais voilà, alors que maintenant, tout ce qui est envoyé à Europe 1 m'arrive.
On se retrouve demain dès 16h, Stéphane, pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.